Interview.
2 jours.
Bonjour, l'interview du jour que vous pouvez écouter en podcast sur le site www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. L'interview se déroule à la librairie Mosaïque ce 7 mai où Hanchouk dédicace son dernier ouvrage intitulé « Contes, légendes et féribourdes du Diwa ».
Pour nous, on a une toute petite maison. Et à 10, j'ai retapé une vieille baraque où on habite maintenant. C'est plus commode pour aller avec le taxi à Valence et tout ça.
Vous êtes ici depuis combien d'années dans le Diwa?
Dans la Drôme depuis 70-71. Et dans le Diwa à partir de 1972.
Qu'est-ce qui vous a arrêté ici?
Les gendarmes. Pour me coller une amende. Mais ça, c'est une blague. Qu'est-ce qui m'a arrêté ici? C'était Vacher en Quin, où on a trouvé une ferme abandonnée qu'on a remis sur les rails pour commencer un élevage de chèvres.
C'est là que vous avez rencontré après des gens qui racontaient des histoires et puis avec un langage peut-être particulier que vous découvriez.
C'est exactement cela. D'abord, on a remarqué que les gens étaient vraiment très très gentils. Et puis, on ne commence pas à demander est-ce que vous connaissez les histoires. Non, c'est dans les échanges sur n'importe quel sujet que, par hasard, il y a une voisine qui m'a raconté une petite histoire sur Vacher en Quin, et après d'autres. Et après, je la trouve tellement intéressante, ces blagues ou féribourdes ou histoires, que bien plus tard, des années plus tard, j'ai noté en rentrant à la maison le soir, que j'ai noté juste 2 ou 3 mots pour me rappeler après l'histoire qu'il m'avait racontée. Et c'est, disons, à partir de 1980, quand on a commencé ce qu'on appelait à l'époque, tout que je marquais dans le journal, les veillées occitanes. C'était donc pour les gens qui voulaient apprendre le patois ou, disons, reprendre le patois qu'ils savaient, mais qu'ils n'avaient pas pratiqué ou oublié un peu. C'est là qu'il y avait la nécessité de faire un petit journal avec nos travaux pour faire des comptes rendus et raconter un peu des choses qu'on faisait, qu'il fallait mettre quelque chose dans le petit journal. C'était 4 feuilles ou 6 feuilles à 4 ostensiles au début. Et là, j'ai donc systématiquement noté un peu les histoires qu'on me racontait n'importe où. Et c'est ce travail, donc là on peut dire que j'ai commencé à collectionner un peu les histoires que j'ai mis dans des papiers par-ci par-là, que j'avais perdu, qu'il fallait retrouver, que j'ai remis en ordre dans ce livre-là, maintenant.
Donc ça fait à peu près 35 ans, voire plus, 40 ans, que vous récupérez des bouts de texte.
Oui, à l'occasion. Quand on est paysan, on n'a pas le temps de s'occuper beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai... Bon, c'est parti un peu avec donc, le patois, l'occitan d'Iwa, que j'ai... commencé à écrire un peu plus et que j'ai fait d'abord un glossaire de la langue du pays. Et parce que beaucoup de ces histoires qui sont donc dans le livre des contes m'ont été racontées en patois, parce que c'est surtout des histoires, disons, de la tradition orale, que les gens communiquaient de père en fils ou en petit-fils ou petite-fille, ou des histoires où souvent il y a certaines parties qui sont un peu rimées. Et les rimes, bon, ça ne marche pas quand on traduit en français, donc il fallait parfois, automatiquement, il fallait de toute façon garder le texte, ce que j'entendais en occitan.
Ces textes, vous étiez à leur recherche ou ils venaient à vous?
Après, j'étais un peu à la recherche. Je demandais, quand je suis allé voir les gens, par exemple, je cherchais tout, c'était pas seulement le texte, bien sûr, je cherchais toute la culture du pays, c'est-à-dire les chansons, les proverbes, donc là, les contes, les féribourdes, il n'y a pas un bon mot français pour féribourde, je crois.
Je connaissais pas ce mot.
Oui, ça c'est un mot du coin, là. Fériboule, fariboule, falibourde, on dit à plusieurs façons, à plusieurs sauces. Et c'est en général de toutes petites histoires, souvent un peu rigolo, ou moqueur, ou un peu grivois parfois aussi. Qu'on racontait autrefois souvent, mais depuis qu'il y a la télé, ça se perd bien sûr. Parce que les gens étaient obligés autrefois de s'amuser tout seul. Maintenant, on se fait amuser par des gens qui sont payés pour raconter des blagues à la radio, à la télévision, qui ne sont pas bien. Ça, c'est mon idée.
Et oui, c'est l'unique refuge, la télévision, hein, pour ceux qui ne réussissent pas dans la vie, je dirais.
Oui.
Bon, ça c'est une parenthèse. Et les personnes qui vous ont raconté ces histoires, elles étaient de tous âges, de toutes.
Bon, d'abord, comme je enquêtais pas mal donc pour le patois, à l'occasion, souvent, je demandais, est-ce que vous connaissez pas des voisines qui savent chanter encore des chansons patois? Oui, allez-y là-bas, à la ferme, à 3 km, et vous dites que vous venez de ma part, et vous recevez. Et bon, c'est dans la discussion qu'après, ça venait quasi tout seul. Mais je demandais, mais où est-ce que vous connaissez? Bon, il y a par exemple dans le livre une série d'histoires sur Bezodeux. Est-ce que vous connaissez pas ça, une histoire sur Bezodeux? Alors là, tout le monde connaît quasi au moins une petite histoire, n'importe. Mais ça l'est surtout tout seul, je peux dire, oui. On n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un dire, est-ce que vous connaissez? Ça ne vient pas, il faut que ça vienne dans la discussion. Et comme c'était surtout des personnes qui parlent donc patois, c'était surtout des personnes âgées parce qu'ils n'ont pas malheureusement transmis la langue du pays à la jeunesse. Donc ça, j'ai marqué dans le livre aussi que la grande majorité de mes informateurs sont nés au début du XXe siècle.
Et Conte, légende et Fribourg de Diois, c'est le recueil que vous avez sorti, Yann Chouk. Est-ce que, parce que l'édition est bilingue, hein, c'est-à-dire une partie française et l'autre en patois du Diois, est-ce qu'il y a encore un public pour lire ces livres en bilingue? Est-ce qu'il y a encore un public pour le patois dans le Diois?
Il y a très peu de jeunes, comme je disais, et qui parlent patois, qui comprennent le patois, mais il y en a toujours des gens qui s'y intéressent. parce que j'ai déjà quand même eu deux ou trois commandes de loin. Par exemple, je crois que c'est à Montpellier, il y a ce qu'on appelle une calandrette, c'est-à-dire une école pour la jeunesse qui est bilingue, où on apprend le français et l'occitan. Ce n'est pas exactement le même dialecte ici, mais qui sont quand même intéressés parce que la grammaire, la formation des mots est pareille entre le languedocien et l'occitan d'Iwa. Et il y a des personnes un peu âgées qui comprennent et qui sont intéressées quand même. Et il y a toujours des gens, parce que on a beau dire, mais le patois est très très plus savouré que le français. Et il y a des expressions, même si c'est traduit en français, ils vont rechercher comment ça se dit à l'origine en occitan.
Votre langue natale, c'est laquelle?
C'est le néerlandais, le hollandais.
Et
Donc j'ai dû apprendre et le français et le patois.
est-ce que vous avez tenté, il n'existe pas une langue ou un dialecte ou un patois de votre pays d'origine, par exemple? Vous l'avez abordé aussi?
Des patois aux Pays-Bas?
Oui.
Mais bien sûr, il y a des régions où, par exemple, là j'étais donc ou à Amsterdam, au Parlement d'Amsterdam, pour dire bonjour, on dit dag. Et quand on est dans le sud de la Hollande, on dit houdoe. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même, on se comprend quand on parle. Et il y a une langue aux Pays-Bas, mais c'est le frison. D'où viennent les vaches noires et blanches, par exemple, où c'est une vraie langue qui est différente du hollandais. Et dans le Limbourg, Maastricht, que vous connaissez sûrement, c'est encore un autre dialecte qui est presque plus proche de l'allemand que du hollandais. Mais bon, il y en a aussi, c'est sûr, dans tous les pays, hein.
Andrew, mis à part, vous n'avez qu'écrit dans votre vie ou vous avez pratiqué d'autres activités, et particulièrement dans le Diwa?
Mais j'ai pratiqué plein d'autres activités. J'ai commencé comme étudiant la réparation de traction avant Citroën. C'est un peu devenu ma spécialité, donc mécanicien. Et quand je suis venu en France, en 70, donc il n'y en avait plus beaucoup de traction. Donc j'ai commencé à travailler dans un garage à Crest comme mécano pour deux chevaux, GS, DS, qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Ouais, c'était ça à peu près. Surtout deux chevaux, trois chevaux bien sûr, GS. Et c'est après, donc en 72, que j'ai commencé avec des amis la ferme à Vacher-en-Quin.
Et là, vous êtes tombé dans la ruralité.
Encore complètement, oui. Oui. Et comme c'était une petite ferme et que c'était toujours difficile à joindre les deux bouts, j'ai parfois travaillé au garage un tout petit peu à temps partiel à Die. J'ai fait le bûcheron en été pendant quelques semaines pour arrondir les fins de mois ou les vendanges ou ce qu'on trouvait comme travail.
Il y a une question qui me vient. Moi, jeune, on disait qu'il fallait travailler à l'école, faire des études pour mieux réussir dans la vie et puis d'avoir une belle vie jusqu'à la fin de ses jours. C'est un principe qui est de moins en moins vrai dû à notre époque et une société qui va à volo. Est-ce que vous, avec votre regard sur le passé, est-ce que vous pensez que les choses ont vraiment évolué dans un mauvais sens ou dans un bon?
Maar je suis un peu pessimiste. Je trouve que ça va dans un très mauvais sens. Il n'y a que le fric et le matérialisme qui comptent pour les gens. Et soutenu, bien sûr, par le capitalisme. Et moi, je pense qu'il y a d'autres valeurs qui sont beaucoup plus importantes. Ben, par exemple, l'amour, bien sûr, et le respect d'autrui. Et je vois que ce sont les finances qui commandent maintenant le monde, et pas seulement en Europe, mais partout. Hein. Et
Est-ce que ce monde des finances n'est pas simplement un théâtre mis en avant du public par les médias?
il faut quand même d'abord regarder l'individu. Tout le monde a toujours envie d'avoir un peu plus que son voisin. Pas tout le monde peut-être, mais beaucoup de gens. Et c'est ce qui maintient le système en place, parce qu'ils jouent là-dessus, bien sûr. Et l'économie est basée que les gens veulent acheter, acheter, acheter. Mais comme ils disent, l'argent n'a pas d'odeur, ils font un peu n'importe quoi. Et moi, je suis donc un grand partisan, pas de l'exploitation, mais de la coopération entre les gens. Mais on n'a pas encore trouvé le système pour la pratique, je crois. Mais ça va venir et on voit des mouvements quand même partout dans le monde. Où, je donne un exemple saillant, c'est pas le même, où on parle même à France Inter parfois de saillant parce qu'il y a le citadin qui veut de nouveau s'approprier de sa vie et de ce qu'on en fait et pas se laisser manipuler par, disons, le système qui commande pour le moment. Et ça va peut-être changer un jour. Il y a eu bien sûr des révolutions. Il y a la Révolution française qui, d'après moi, n'était pas une bonne, à part le slogan qu'il fallait égalité et fraternité.
Ou
Mais
la mort, ou
ça
la
a
mort.
commencé par des meurtres et par la Révolution française a abouti à la terreur. Comme toujours, la révolution dans le communisme, c'était pareil. Après, c'était Staline qui a instauré la terreur, pareillement.
C'est le principe de décimation aussi.
Oui, aussi, ça fait partie, bien sûr. Et pour maintenir, parce que pendant la révolution, on a toujours, c'est pareil avec la religion, on a un certain nombre de dogmes qu'il faut coûte que coûte instaurer et il y en a toujours des gens qui sont pas d'accord, donc il faut les assassiner ou les faire peur pour que l'autre gens ne suivent pas.
Andrew, vous avez rédigé combien d'ouvrages?
Bon, j'ai fait d'abord le glossaire du patois de Lille, qui s'appelle Loup Trésor, de l'Occitan d'Ivoire. Après, j'en ai fait un autre du Trièves, parce que je suis allé quand même pas mal dans le Trièves. Et comme on a, disons, une grande partie de vocabulaire en commun, quoique on ne prononce pas tout à fait pareil, j'ai fait et quelqu'un m'avait donné un manuscrit. Ou même, j'avais trois manuscrits et je dis, c'est dommage que ça reste quelque part dans le tiroir, que ça va finir à la poubelle. Je vais faire un glossaire de l'Occitan du Trièves. Ça, c'était le deuxième. Après, j'ai écrit un roman que j'avais dans la tête, mais quand on fait le paysan, on n'a jamais le temps d'écrire. Alors, quand j'ai eu des problèmes d'eau, j'ai été obligé d'arrêter la ferme. J'ai enfin eu le temps, et que je devais prendre un travail assis ou tranquille, j'ai eu le temps donc d'écrire ce roman que j'avais dans la tête depuis 15 ans, qui est donc sorti en 2002 ou 2004, je ne me rappelle plus, Glandage, Moscou 41. Et puis, ça, c'était bon, un livre, disons, d'une taille à peu près normale. Après, j'ai écrit un petit truc, une petite nouvelle qui s'appelait Loupastre. sur un berger. Et ensuite, j'ai écrit, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, Entre la Bastio et Louperrier, fait Bretto. C'est une histoire qui se déroule à Brette, mais c'est de nouveau un roman. Et ce sont toujours des romans inventés, mais dans un cadre historique précis. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas raconter des bêtises. Et par exemple, quand il y a l'histoire de blindage de Moscou, c'est quelqu'un qui est enrôlé par l'armée allemande et qui suit donc les batailles qu'il y a eu vraiment dans l'Union soviétique. Et pour Brett, par exemple, je suis allé voir maintes fois une amie qui est originaire de Brett. Et ils m'ont donné beaucoup d'informations. Comment l'histoire se situe avant 1950 surtout, comment c'était à Brett au 19e siècle. Et ce qui est rigolo avec l'histoire sur Glandage et Moscou, c'est une histoire dans une histoire en fin de compte. Et un journal, j'avais trouvé un journal, et il y a une personne qui me dit, ah, mais moi j'ai connu cette personne. Elle pensait que c'était tout vrai. Mais c'était pas vrai du tout, c'est moi qui l'avais inventé.
Ah, peut-être que vous êtes tombé sur une similitude involontairement,
Oui,
et ça peut être
tout à fait.
possible. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des histoires qui pourraient rentrer dans les contes et légendes des Firibourg du Diois?
Des histoires, il y a des personnes qui ont beaucoup de fantaisie, mais qui pourraient tout à fait raconter des blagues. J'entends encore aujourd'hui des choses dont je ne sais pas si c'est inventé, disons, hier ou il y a 20 ans, on ne sait pas. C'est ce qu'on raconte, là, c'est surtout la tradition orale, c'est des choses qu'on racontait donc plutôt au 19e, 20e siècle, 1900 jusqu'à. Le patois, ça s'est beaucoup perdu après la Première Guerre et surtout à partir de 1950, il y a une cassure entre les générations. Bon, là, par exemple, à Poney, je connais quelqu'un de mon âge, donc un tout petit peu plus jeune peut-être, mais qui parle encore, il parle pas super bien parce qu'il n'a pas l'habitude, mais qu'il a vraiment entendu parler beaucoup, donc lui, il peut te raconter quelque chose en patois, ou une histoire en patois. Il est dans le livre d'ailleurs, il est cité plusieurs fois. Mais ce sont des histoires qu'on peut toujours raconter. Et je pense toujours qu'il y a des personnes qui.
Eh bien, Anchouk, le temps passant, je vous remercie de nous avoir parlé au micro et pour le Contes et légendes et Firibourg du Diois, pour cette dédicace qui a lieu à Mosaïque ce samedi 7 mai. Merci.
À votre service. Au plaisir, comme on dit en patois.
Interview.
Okay, the bird.